Chapitre 25. Sol, le consul, le père Duré et Etmastine, ce dernier toujours inconscient, se trouvaient dans le premier tombeau du temps lorsqu'ils entendirent les coups de feu. Le consul sortit seul, lentement, avec prudence, mesurant sur ses appareils les effets des tempêtes anantropiques qui les avaient chassés au plus profond de la vallée.
« Tout va bien !»
cria-t-il. La pâle lueur de la lanterne de Sol éclairait le fond de la caverne, illuminant les trois visages blêmes et la forme emmitouflée du templier.
« Les marées du temps se sont calmées !» ajouta le consul. « Vous pouvez venir !»
Sol se leva. Le visage du bébé formait un ovale pâle au-dessous du sien.
« Vous êtes sûr que les détonations venaient de l'arme de Brown ? » demanda-t-il.
Le consul fit un geste vague, englobant les ténèbres extérieures.
« Aucun de nous ne possède une arme de ce genre. Mais je vais sortir jeter un coup d'œil. »«
Attendez !» lui dit Sol. « Je vous accompagne. »
Le père Duré était à genoux aux côtés de Mastine.
« Allez-y, » murmura-t-il.
« Je reste avec lui. »
« L'un de nous reviendra voir si tout va bien dans quelques minutes, »
lui promit le consul. La vallée luisait sous la faible luminescence des tombeaux du temps. Le vent du sud hurlait de manière sinistre, mais il soufflait plus haut cette nuit, au-dessus des falaises, et les dunes n'étaient pas affectées. Sol suivit le consul sur le sentier tortueux qui descendait au fond de la vallée et obliquait ensuite vers le col. Quelques rafales rappelaient la violence des tempêtes précédentes, mais elles étaient de moins en moins nombreuses. Là où le sentier commençait à s'élargir, Sol et le consul dépassèrent le champ de bataille à moitié vitrifié qui entourait le monolithe de cristal, dont la haute structure émettait un éclat laiteux reflété par les innombrables échardes qui jonchaient le lit de l'arroyo. Grimpant derrière le tombeau de jade à la phosphorescence pâle, ils obliquèrent dans la direction du sphinx.
« Mon Dieu !»
s'exclama Sol d'une voix rauque. Il se précipita en avant, essayant de ne pas trop secouer le bébé dans son support. Il s'agenouilla devant la silhouette sombre qui gisait sur la dernière marche.
« Brown ?»
demanda le consul en s'arrêtant deux marches plus bas, haletant.
« Oui. »
Sol avait commencé à lui relever la tête. Il retira précipitamment sa main au contact de quelque chose de lisse et de tiède qui sortait du crâne.
« Elle est morte ?»
Serrant la tête de sa fille contre sa poitrine, Sol chercha une pulsation au niveau de la carotide.
« Non, » dit-il en prenant une profonde inspiration. « Elle vit, mais elle est inconsciente. Donnez-moi un peu de lumière. »
Il prit la lampe que lui tendait le consul et éclaira la mia. Il suivit le cordon d'argent, peut-être tentacule, correspondait-il mieux à la réalité, car cela avait un aspect de chair évoquant une origine organique, qui partait de l'orifice de dérivation neurale de son crâne pour pénétrer dans le sphinx par la porte ouverte en haut des marches. Tout l'édifice irradiait une lumière brillante, plus brillante que celle des autres tombeaux, mais l'entrée elle-même était plongée dans l'ombre.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda le consul en s'approchant. Il tendit la main pour toucher le cordon d'argent, et la retira aussi vivement que l'avait fait Sol.
« Mon Dieu, si chaud !»«
On dirait que c'est vivant, » reconnut Sol.
Il était en train de frictionner les mains de Brown. Il lui donna quelques tapes sur les joues pour essayer de la faire revenir à elle. Elle n'eut aucune réaction. Il suivit le cordon avec sa lampe jusqu'à l'endroit où il se perdait dans l'entrée du sphinx.
« Je ne crois pas qu'elle se soit attachée ça volontairement, » dit-il.
« Le Gritch !»
fit le consul. Il se pencha plus près pour activer l'affichage des biomoniteurs sur le persoc du poignet de Brown.
« Tout est normal, excepté les ondes cérébrales, » murmura-t-il.
« Que disent-elles ? »
« Elles disent qu'elle est morte. Mort cérébrale, au moins.
Aucune autre fonction supérieure en évidence. »
Sol soupira. Il oscilla quelques instants d'avant en arrière sur ses talons.
« Il faut absolument que nous sachions où va le câble, » dit-il.
On ne pourrait pas le débrancher de l'orifice de dérivation ?
Regardez, lui dit Sol.
Il fit jouer le faisceau de la lampe sur la nuque de Brown, soulevant une masse de boucles noires pour dégager l'orifice. Celui-ci, qui se présentait normalement sous la forme d'un petit disque de plasse-chère de quelques millimètres de large, avec un embout de 10 microns, donnait l'impression d'avoir fondu. La chair formait une crête rouge soudée à l'extrémité du câble.
« Il faudrait un chirurgien pour lui retirer ça, » murmura le consul.
Il toucha prudemment la crête de chair. Brown ne bougea pas. Il orienta le faisceau de sa lampe vers l'entrée du sphinx.
« Restez avec elle, » dit-il. « Je vais voir où ça va. »«
Servez-vous du communicateur, » suggéra Sol.
Il ne se faisait cependant pas trop d'illusions sur l'efficacité de leurs moyens de liaison pendant les périodes d'activité des marées du temps. Le consul hocha la tête. Il s'éloigna rapidement avant que la peur ne le fasse changer d'avis. Le serpent de chrome suivait le corridor principal. Il disparaissait après l'entrée de la pièce où les pèlerins avaient dormi la nuit précédente. Le consul jeta un coup d'œil à l'intérieur en passant. Sa lampe éclaira les couvertures et les paquetages qu'ils avaient laissés derrière eux dans leur précipitation. Il suivit le câble au détour du couloir, dans le passage central qui donnait sur 3 corridors secondaires. Il emprunta un plan incliné vers le haut, puis bifurqua de nouveau sur la droite, jusqu'au passage étroit qu'ils avaient baptisé « Allée du Pharaon » lors de leurs précédentes explorations. Il descendit alors une galerie étroite, où il lui fallut bientôt ramper, en prenant garde de ne pas toucher le tentacule de métal tiède comme de la chair. Il dut ensuite faire l'ascension d'une cheminée inclinée qui débouchait sur une galerie qu'il ne se rappelait pas avoir visitée précédemment et où les murs obliques et suintants se rapprochaient pour former une voûte étroite. La galerie descendait ensuite en pente abrupte. Il s'écorcha les mains et les genoux pour ralentir sa descente et déboucha finalement dans un espace qui semblait bien plus long que le sphinx vu de l'extérieur. Il était totalement perdu. Il ne pouvait compter que sur le câble pour lui faire retrouver son chemin.
« Sol !»
cria-t-il. Il doutait que le communicateur pût transmettre son appel à travers l'épaisseur des murs et l'obstacle des marées du temps. Mais un murmure lui répondit aussitôt « Je suis là. »
J'ai suivi le cordon dans les profondeurs de ce foutu labyrinthe. Je me trouve dans une galerie que nous n'avions pas visitée avant. Elle a l'air très grande.
Vous êtes arrivé à la fin du câble ?
Oui,
fit le consul en s'adossant à la paroi pour s'éponger le visage avec son mouchoir.
Un nexus ? Demanda Sol.
Il faisait allusion à l'un des innombrables terminaux de données où les citoyens du Retz pouvaient se brancher sur l'infosphère.
Non. Cette chose s'enfonce directement dans la pierre. La galerie où je me trouve est un cul-de-sac. J'ai essayé de tirer sur le câble, mais il est aussi solidement attaché de ce côté-ci que de l'autre, au crâne de Brown.
« Revenez !»
lui dit la voix lointaine de Sol sur un fond de parasite.
« Nous allons tenter de le sectionner de ce côté. »
Dans les ténèbres moites de la galerie, le consul se sentit en proie, pour la première fois de sa vie, à une horrible claustrophobie. Il avait du mal à respirer, et il était sûr qu'il y avait une présence derrière lui dans le noir, lui coupant son oxygène et toute retraite. Les battements précipités de son cœur étaient presque audibles dans les 3 passages rocheux. Il se força à prendre plusieurs inspirations lentes, s'essuya de nouveau le visage, et fit refluer la panique.
« Cela pourrait la tuer !»
dit-il entre 2 bouffées d'air haletantes. Pas de réponse. Il essaya encore, mais quelque chose avait coupé le faible lien qui l'unissait à l'extérieur.
« J'arrive !»
dit-il dans l'instrument muet. Il se retourna, éclaira les parois et le câble. Était-ce un reflet de lumière ou le cordon avait-il bougé ? Il reprit en rampant le chemin par où il était venu. Ils avaient trouvé Het Mastyn au coucher du soleil, quelques minutes avant la tempête anthropique. Le Templier s'avançait en titubant lorsque le consul, Sol et Duré l'avaient reconnu. Quand ils étaient arrivés jusqu'à lui, il avait perdu connaissance.
Transportez-le à l'intérieur du sphinx, leur dit Sol.
À ce moment-là, comme si c'était le soleil couchant qui en organisait la chorégraphie, les marées anthropiques se refermèrent sur eux comme un écœurant rat de marée familier. Les trois hommes tombèrent à genoux. Rachel se réveilla et poussa des glapissements aigus avec toute la vigueur d'un nouveau-né terrifié.
« Essayez de gagner l'entrée de la vallée !»
haleta le consul, portant Etmastine sur ses épaules.
« Il faut sortir de cette zone !»
Ils dépassèrent le premier tombeau, le sphinx, mais les marées du temps étaient devenues insupportables. Elles soufflaient sur eux comme un ouragan vertigineux. Ils parcoururent encore 30 mètres et furent incapables d'avancer plus longtemps. Ils s'écroulèrent sur leurs genoux et sur leurs mains. Etmastine roula au milieu de la piste. Rachel avait cessé de gémir. Elle gigotait spasmodiquement.
« Retournons !» souffla le père Duret. « Nous étions plus à l'abri dans la vallée. »
Ils reprirent le chemin des tombeaux du temps, titubant sur la piste comme des ivrognes, chacun portant un fardeau trop précieux pour être abandonné. Ils s'abritèrent quelques instants à l'entrée du sphinx, adossés à la pierre, pendant que la texture même de l'espace et du temps semblait se contracter et se gondoler autour d'eux. C'était comme si le monde avait été la surface d'un drapeau que quelqu'un avait déroulé d'un courageur. La réalité semblait miroiter et onduler, puis s'enrouler sur elle-même comme une haute vague qui se referme sur sa crête. Le consul déposa le Templier dans le creux d'un rocher et tomba à quatre pattes en haletant, les doigts crispés dans le sable.
« Occupe de Mobius !»
murmura Mastine en remuant à peine les lèvres, les yeux toujours fermés.
« Il nous faut le cube de Mobius !»«
Merde !» réussit à dire le consul. « Pourquoi, Mastine ? »
fit-il en secouant le Templier par les épaules.
« Pourquoi nous faut-il ce cube ?»
Mais la tête de Etmastine retomba mollement d'un côté puis de l'autre. Il avait de nouveau perdu connaissance.
« Je vais le chercher !» fit le père Duret.
Il avait l'air encore plus vieux et plus malade que d'habitude. Son visage et ses lèvres étaient d'une pâleur extrême. Le consul acquiesça d'un signe de tête, souleva le Templier sur ses épaules, aida Sol à se remettre debout, et descendit en chancelant le sentier de la vallée. Il sentit les ondulations des champs anthropiques diminuer d'intensité tandis qu'il s'éloignait du sphinx. Le père Duret gravit l'escalier du sphinx et tituba devant l'entrée, en s'agrippant à la pierre, comme un marin à une filière par une mer déchaînée. Le sphinx, au-dessus de lui, semblait penché d'abord de 30 degrés d'un côté, puis de 50 de l'autre. Duret savait que la violence des champs anthropiques déformait ses perceptions, mais ce fut suffisant pour le faire tomber à genoux et vomir sur les dalles de pierre. Les marées du temps se calmèrent un instant, comme la houle entre les assauts répétés des vagues. Duret se remit sur ses pieds, s'essuya la bouche du dos de la main et s'avança péniblement vers l'entrée noire. Il n'avait pas pensé à se munir d'une lampe. Il suivit le corridor en tâtonnant, épouvanté à l'idée que sa main allait rencontrer quelque chose de tiède et de vivant, ou qu'il allait se retrouver dans la chambre où il était revenu à la vie. Il allait peut-être trébucher sur son propre corps, encore tout fumant au sortir de la tombe. Il hurla. Mais son cri se perdit dans le rugissement de tornade de son propre pouls, tandis que les marées anthropiques revenaient en force. La chambre qui leur avait servi de dortoir semblait plonger, elle aussi, dans cette terrible obscurité où ne filtre pas la moindre lueur. Mais la vision de Duret s'était habituée au noir, et il se rendit compte que le cube de Mobius lui-même émettait une faible lumière et que ses voyants clignotaient. Il traversa la chambre encombrée d'affaires abandonnées, et saisit le lourd cube à bras-le-col, ressentant un soudain afflux d'adrénaline. Les documents enregistrés par le consul avaient parlé de cet artefact. C'était le mystérieux bagage transporté par Mastine durant le pèlerinage. Comme d'une enceinte de confinement pouvant éventuellement contenir un ergue, l'une de ces créatures à champ de force dont les Templiers se servaient pour propulser leur vaisseau-arbre. Duret n'avait pas la moindre idée de la raison pour laquelle cet ergue était devenu maintenant si important. Il souleva cependant la caisse, en l'entourant de ses bras comme si elle contenait un trésor, et reprit péniblement le chemin de l'extérieur, de l'escalier et de la vallée.
« Par ici !»
appela le consul du premier des trois caveaux situés à la base de la falaise.
« C'est un peu plus tranquille !»
Duret tituba sur le sentier, épuisé par son fardeau. Le consul sortit pour l'aider. Il y avait 30 marches à grimper pour accéder au caveau. L'intérieur était nettement plus calme. Duret sentait le flux et le reflux des marées anentropiques à l'entrée de la caverne. Mais au fond de celle-ci, là où la lumière froide des globes bioluminescents révélait des frises murales élaborées, l'atmosphère était presque normale. Le prêtre se laissa tomber par terre à côté de Sol Weintraub, après avoir déposé le cube devant Etmastin, qui avait les yeux ouverts mais ne disait pas un mot.
« Il vient de reprendre connaissance, » chuchota Sol.
Les yeux noirs du bébé, grands ouverts, brillaient faiblement dans la pénombre. Le consul s'accroupit près du templier.
« Pourquoi avons-nous besoin de ce cube, Mastin ? » demanda-t-il. « Pourquoi ?»
Le regard du templier demeurait fixé dans le vide, et ses paupières ne bougeaient pas.
« Notre allié, » murmura-t-il, « notre seul allié contre le seigneur de la douleur. »
Les syllabes étaient prononcées détachées, dans le dialecte précis du monde des Templiers.
« Notre allié, de quelle manière ?»
demanda Sol en saisissant dans ses mains crispées un coin de la robe de Mastin.
« Comment faut-il l'utiliser ? Et à quel moment ?»
Le Templier semblait contempler quelque chose d'infiniment lointain, tandis qu'il murmurait d'une voix rauque.
« Nous avions requis cet honneur. La voix authentique du Sequoia Sempervirens a été la première à contacter le cybride de récupération de la personnalité Kitz. Mais c'est moi qui ai eu le grand honneur d'être éclairé par la lumière du Mui. Et c'est l'Yggdrasil, mon Yggdrasil, qui a été offert en sacrifice expiatoire pour tous nos péchés contre le Muir. »
Le Templier ferma les yeux. Un léger sourire se dessina, incongru, sur ses traits austères. Le consul se tourna vers Sol et Duret.
« Cela ressemble davantage à la terminologie Grichtek qu'à celle des Templiers, » dit-il.
« C'est peut-être un mélange des deux, » suggéra Duret. On a connu des coalitions plus étranges dans l'histoire de la théologie. »
Sol posa la main sur le front de Mastin, qu'il trouva brûlant de fièvre. Il chercha dans leur dernier Medipack une compresse analgésique ou une pyrobande. Il hésita quand il en trouva une.
« J'ignore si les Templiers répondent aux normes médicales habituelles, » dit-il. « Je ne voudrais pas provoquer une allergie qui lui serait peut-être fatale. »
Le consul prit la bande et l'appliqua autour du bras maigre du Templier.
« Ils ont le même métabolisme que nous, »
dit-il en se penchant à l'oreille de Mastin.
« Que s'est-il passé à bord du chariot avant ? »
ajouta-t-il à l'adresse du Templier. Ce dernier, le regard toujours dans le vague, se contenta de répéter
« Chariot avant !»«
Je ne comprends pas, » chuchota le père Duret.
Sol le tira à l'écart par la manche pour lui expliquer.
Mastin n'a pas raconté son histoire comme les autres pendant le pèlerinage. Il a disparu du chariot avant le premier soir, en laissant ses bagages et le cube de Mobius. Il y avait partout des traces de sang.
« Que s'est-il passé à bord du chariot avant ? » répéta le consul.
Il secoua légèrement le Templier pour le forcer à lui prêter attention.
« Essayez de vous concentrer, Etmastin, voix de l'arbre authentique !»
L'expression du Templier se modifia. Son regard perdit une partie de sa fixité. Ses traits vaguement asiatiques reprirent un aspect grave et familier.
« J'ai libéré l'élémental de son enceinte de confinement. »« Il veut parler de l'ergue, »
murmura Sol à l'oreille du prêtre perplexe.
« Et je l'ai soumis grâce à la discipline mentale qui m'a été inculquée dans les hautes branches. Mais soudain, sans aucun avertissement,
le seigneur de la douleur a fondu sur nous.
Le Gritch,
murmura Sol plus pour lui-même que pour le père Duré.
Est-ce votre sang qui a été répandu là-bas ?
Demanda le consul au Templier.
Du sang ?
Fit Mastine en rabattant son capuchon sur son front, peut-être pour dissimuler sa confusion.
Non, ce n'était pas mon sang. Le seigneur de la douleur avait un pénitent dans ses griffes. Il se débattait. Il essayait d'échapper aux pointes d'expiation.
Et l'ergue,
insista le consul,
l'élémental, quel rôle devait-il jouer? Était-il censé vous protéger du Gritch?
Le Templier fronça les sourcils et porta une main tremblante à son front.
Il n'était pas prêt. Moi non plus, je n'étais pas prêt. Je l'ai remis dans son enceinte de confinement. Le seigneur de la douleur a posé la main sur mon épaule. J'étais heureux que mon expiation se fasse dans l'heure même du sacrifice de mon vaisseau arbre.
Sol se pencha pour murmurer à l'oreille de Duré.
L'Yggdrasil a été détruit ce soir-là, en orbite.
Et Mastine ferma les yeux.
« Je suis fatigué, »
murmura-t-il d'une voix faible. Le consul le secoua de nouveau.
« Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici, Mastine? Comment nous avez-vous rattrapé depuis la mer des Hautes Herbes ?»«
Lorsque je me suis réveillé, j'étais parmi les tombeaux du temps. »
murmura le Templier sans rouvrir les yeux.
« Je me suis réveillé là. Suis trop fatigué. Besoin de dormir. »
« Laissez-le se reposer, »
fit le père Duré. Le consul acquiesça. Il déplaça la tête du Templier pour qu'il soit dans une position plus confortable.
« Tout cela n'a aucun sens. »
murmura Sol lorsque les trois hommes se furent éloignés avec le bébé pour s'asseoir dans la pénombre où parvenaient les échos affaiblis des marées anantropiques de l'extérieur.
« Nous avons perdu un pèlerin. Nous en gagnons un autre. »
fit le consul.
« Tout cela ressemble à un jeu bizarre dont les règles nous échappent. »
Une heure plus tard, il devait entendre l'écho des détonations dans la vallée. Sol et le consul se penchèrent sur le corps inanimé de Bran Lamia.
« Il faudrait un laser pour sectionner ce truc, »
déclara Sol.
« Maintenant que Kassad n'est plus là, nous n'avons presque plus d'armes. »
« Nous risquerions de la tuer en nous servant d'un laser, »
déclara le consul en prenant dans sa main le poignet de Brown.
« À en croire le moniteur bio, elle est déjà morte ?»«
Non, »
répliqua le consul en secouant vigoureusement la tête.
Quelque chose d'autre est en train de se produire. Cette créature doit vouloir extraire le cybride de Kitz que porte Lamia. Quand elle aura fini, elle nous la rendra peut-être. »
Sol leva son bébé à hauteur de ses épaules et regarda la vallée irradiée d'un éclat léger.
« C'est une situation insensée.
Rien ne se passe comme nous l'avions prévu.
Si seulement votre foutu vaisseau était ici !»
Nous disposerions d'outils tranchants pour libérer éventuellement Lamia de cette chose. Et Mastine et elle auraient au moins une chance de survivre avec les installations médicales de bord.
Le consul ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés dans le vague. Au bout d'un long moment, il murmura.
Restez avec elle. Je reviens tout de suite.
Il se leva et disparut dans l'entrée noire du sphinx. 5 minutes plus tard, il fut de retour avec son grand sac de voyage. Il l'ouvrit et en sortit de tout au fond une sorte de descente de lit roulé qu'il étala sur la plus haute marche de pierre du sphinx. C'était un petit tapis ancien d'un peu moins de 2 mètres de long et d'un peu plus d'1 mètre de large. Les motifs complexes avaient perdu une grande partie de leur couleur au cours des siècles, mais les filaments de commande de vol brillaient encore comme de l'or dans la pénombre. Des câbles minces étaient reliés à une batterie d'alimentation que le consul entreprit de détacher.
« Mon Dieu !»
murmura Sol. Il se souvenait du récit du consul concernant la tragique histoire d'amour de sa grand-mère Ciri, avec le navigant Mérine Aspic. Cette histoire d'amour avait été à l'origine du soulèvement d'Alliance Maui contre l'autorité de l'hégémonie et des 2 années de guerre qui en avaient résulté. Mérine Aspic était arrivée sur le site numéro 1 grâce au tapis Hawking que possédait son ami. Le consul hocha la tête.
« C'est celui de Mike Osho, l'ami de mon grand-père Mérine, » dit-il. Cyril avait laissé dans son tombeau pour qu'il le trouve quand il viendrait. Il me l'a donné lorsque j'étais enfant, juste avant la bataille de l'archipel, où il est mort en même temps que nos rêves de liberté.
Sol passa la main sur l'antique objet.
« Dommage qu'il ne puisse pas voler ici. »«
Qui vous a dit qu'il ne le peut pas ?» demanda le consul, surpris en relevant la tête.
« Le champ magnétique d'Hyperion est au-dessous du seuil critique requis pour les véhicules EM, » expliqua Sol.
« C'est la raison pour laquelle on n'utilise ici que des dirigeables et des glisseurs.
C'est également pour cela que le Benares, qui était une ancienne barge de lévitation, a été reconverti en péniche fluviale. »
Il s'interrompit soudain en se sentant complètement idiot.
Il venait de donner ses explications à un homme qui avait occupé durant 11 années locales la fonction de consul de l'hégémonie sur Hyperion.
« Mais je me trompe peut-être, » dit-il piteusement.
Le consul lui sourit.
« Vous avez tout à fait raison en ce qui concerne les VEM classiques. Le rapport masse-portance est trop élevé. Mais le tapis Hawking a surtout de la portance et presque pas de masse. Je l'ai essayé plusieurs fois lorsque je vivais ici. Ce n'est pas l'idéal, mais cela marche, en principe, quand il n'y a qu'une seule personne dessus. »
Sol regarda la vallée derrière lui, avec les masses luminescentes du tombeau de jade, de l'obélisque et du monolithe de cristal. L'ombre de la falaise cachait l'accès aux 3 caveaux. Il se demanda si le père Duret et Het Mastin étaient encore là, encore vivants.
« Vous envisagez d'aller chercher de l'aide ?»
demanda-t-il.
« Un seul d'entre nous peut y aller. Il ramènerait le vaisseau. Il pourrait tout au moins en reprendre possession et l'envoyer ici en mode automatique. Nous tirerons au sort pour savoir qui partira. »
À son tour, Sol eut un sourire.
« Réfléchissez un peu, mon ami. Duret n'est pas en état de voyager. Il ne connaît pas le chemin de toute manière. Quant à moi... »
Il souleva la petite Rachel jusqu'à ce que le sommet de sa tête repose contre sa joue.
« Le voyage durerait peut-être plusieurs jours, » reprit-il. « Et nous ne disposons pas de plusieurs jours. S'il y a quelque chose à faire pour elle, il faut rester ici pour qu'elle ait sa chance. Il n'y a que vous qui puissiez y aller. »
Le consul soupira, mais ne discuta pas.
« Sans compter, » reprit Sol, « qu'il s'agit de votre vaisseau. Il n'y a que vous qui ayez une chance de passer outre à l'interdiction de Gladstone. Et vous connaissez bien le gouverneur général. »
Le consul regarda vers l'est.
« Je me demande si Théo est toujours au pouvoir, » murmura-t-il.
« Retournons faire part de notre plan au père Duret. Il faut également que je prenne un biberon dans mon sac qui est resté là-bas. » Rachel a faim.
Le consul roula le tapis, le remit dans son sac, et baissa les yeux vers Brown Lamia. Le câble obscène se perdait dans le noir.
« Vous croyez qu'elle s'en sortira ? »
demanda-t-il.
« Je demanderai à Paul d'apporter une couverture et de rester à son chevet pendant que nous transporterons notre 2e invalide d'ici. Vous comptez partir ce soir ou demain matin ?»
Le consul se frotta la joue d'un geste las.
« L'idée de traverser ces montagnes de nuit ne me plaît guère. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Je partirai dès que j'aurai rassemblé les quelques affaires dont j'ai besoin. »
Sol hocha la tête. Il se tourna vers l'entrée de la vallée.
« J'aurais aimé que Brown nous dise où est allé Silenus. »
« Je tâcherai de le repérer en partant, » répondit le consul en levant la tête vers les étoiles. « Comptez entre 36 et 40 heures pour retourner à Kitts, plus quelques heures pour libérer le vaisseau. Je devrais être de retour ici dans 2 jours standard au plus tard. »
Sol hocha la tête.
Le bébé s'était mis à pleurer et il le berça doucement. Son expression lasse mais douce ne cachait pas ses doutes. Il posa la main sur l'épaule du consul. « Il est normal d'essayer tout ce qui est en notre pouvoir, mon ami. Venez, nous allons informer le père Duré et voir si notre autre compagnon s'est réveillé. Nous mangerons ensemble. On dirait que Brown Lamia nous a rapporté assez de vivres pour un dernier festin. »